Alexandre Dumas, Black, chapitre 30. Comment Monsieur le Baron de la Graverie entendait et pratiquait les préceptes de l'Évangile. Bien qu'il ne fût que 5h30 du matin, le chevalier de la Graverie ne songea point un instant à remettre à plus tard la visite qu'il voulait faire à son frère. Comme tous les gens lents à prendre un parti, le chevalier, une fois sorti de sa voluptueuse tranquillité, ne savait plus ni temporiser ni attendre. D'ailleurs, les questions qu'il allait poser au baron lui semblaient si importantes qu'il ne doutait point que toutes les portes de l'hôtel de la Graverie ne s'ouvrissent immédiatement devant lui. Le baron habitait rue Saint-Guillaume, une de ces immenses demeures dont les proportions jurent assez ordinairement avec le luxe étriqué et les habitudes parcimonieuses de ceux qui les habitent aujourd'hui. Le fiacre du chevalier s'arrêta devant une grande porte cintrée aux épais ballants de chêne, sur l'un desquels le cocher fit à plusieurs reprises retentir un lourd marteau. Rien ne bougea dans l'intérieur de l'hôtel. Le cocher réitéra ses appels, en ayant soin de les rendre de plus en plus bruyants, et enfin une voix glapissante sortit d'une loge construite à droite de la porte cochère, suivant les anciennes traditions, parlementa longtemps avant de se décider à tirer le cordon. Le chevalier profita de l'entrebâillement de la porte pour pénétrer dans la cour. Il paya son cocher, siffla Black qui commençait d'explorer les lieux, et s'adressa à une tête coiffée d'un bonnet de coton et bizarrement éclairée par la lueur fantastique d'une mauvaise chandelle qu'une main décharnée sortait du vasistas pour reconnaître le visiteur matinal. « Monsieur le baron de la Graverie est-il visible ?» demanda le chevalier. « Plaît-il ? Fit le ou la concierge ?» Le chevalier réitéra sa question. « Ah ça ! Mais vous êtes fou, mon cher monsieur !» s'écria la tête. « Permettez-moi d'abord de vous demander quelle heure il est. » Le chevalier tira naïvement sa montre et concentra tout ce qu'il avait de puissance dans les yeux pour y voir au milieu du crépuscule. « 6 heures, mon cher monsieur, ou ma brave dame, dit le chevalier, car votre chandelle éclaire si mal que je ne saurais bien précisément dire à quel sexe vous appartenez, et si c'est au concierge ou à la concierge de mon frère que j'ai l'honneur d'adresser la parole. « Comment ? Vous êtes le frère de monsieur le baron ? S'écria la tête avec un accent d'étonnement que la main accompagna d'un geste analogue. Mais entrez donc, alors entrez dans la loge, monsieur, je vous prie, entrez, car vraiment, vous grelottez en plein air, et moi, je sens à mon nez que je m'enrhume. Ne serait-il pas beaucoup plus simple, dites-moi, que vous m'introduisissiez tout de suite chez mon frère ? « Chez votre frère ? » s'écria la tête en continuant de manifester, par son accent et par son geste, un étonnement croissant. « Mais impossible, monsieur, impossible ! Le cocher ne se lève qu'à 7 heures. Il ne fait jour chez le valet de chambre de monsieur qu'à 8. Enfin, il pourra être 10 heures lorsque ce dernier entrera chez monsieur le baron. » Et avant que la toilette de monsieur votre frère soit faite, avant que notre maître ait été rasé, poudré, habillé, il s'écoulera encore 1 heure au moins. C'est comme cela. Dame, il faut en prendre votre parti et vous résigner à la patience. Entrez donc, monsieur, entrez donc. » À ces mots, qu'elle regardait comme concluants et qu'il était en effet, la tête se retira du vasistas qui se referma. Mais presque aussitôt la porte s'ouvrit et offrit au chevalier l'hospitalité tiède et nauséabonde de la loge. Cependant, insista le chevalier, ne pouvant se décider à franchir le seuil de la baraque, j'ai à entretenir mon frère de choses très pressées et de la plus haute importance. Faire ce que désire monsieur serait risquer de perdre ma place. Monsieur le baron est bien trop sévère pour toutes les choses d'étiquette. Ah, il n'y a pas de danger que l'on désobéisse à ses ordres, à celui-là.
Voyons, ma brave femme, puisque décidément vous êtes une femme, je prends tout sous ma responsabilité.
Et tenez, voilà d'abord 1 louis pour vous dédommager de l'ennui que votre complaisance pourra vous occasionner.
La concierge étendait la main pour saisir le jaunet lorsqu'on entendit un grand bruit de planches renversées qui venait de la cour. À ce bruit se mêlaient des abois frénétiques et des cris de volailles en détresse. La concierge ne fit qu'un bond de sa loge dans la cour. « Oh mon Dieu, qu'arrive-t-il au cochin chinois de monsieur le baron ?» Quant au chevalier, n'apercevant pas Black près de lui, il frissonna, se doutant instinctivement de ce qui était arrivé. En effet, la concierge avait à peine fait 3 pas dans la cour que l'épagneul revenait à son maître, tenant à sa gueule un énorme coq, dont la tête pendante, en allant de droite à gauche, comme le balancier d'une pendule, indiquait suffisamment qu'il avait passé de vie à trépas. C'était bien, comme l'avait dit la concierge, un coq de l'espèce dite cochin chinoise, alors dans toute sa nouveauté. Le chevalier prit le coq par ses pattes, longues comme des échasses, et l'admira avec curiosité, tandis que Black regardait amoureusement sa victime et paraissait enchanté du chef-d'œuvre qu'il venait de faire. Mais la concierge ne semblait nullement disposée à partager l'admiration de l'un et la satisfaction de l'autre, car elle se mit à pousser des cris déchirants avec des invocations à la manière antique. À ces cris, toutes les fenêtres s'illuminèrent, et à chacune de ces fenêtres apparurent des têtes capricieusement coiffées, qui de madras, qui de bonnets de coton, qui de serre-têtes d'indienne, toutes au reste précieuses par le cachet d'ancien régime qui caractérisait chacune d'elles. C'était la domesticité de monsieur le baron. Chacune de ces têtes donnait passage à une voix dans un diapason différent, et chacune de ces voix s'enquérait à la fois de ce qui pouvait causer ce tumulte et troubler tant de braves gens au milieu de leur repos. Il en résulta un brouhaha qui domina bientôt le bruit d'une sonnette que l'on faisait vibrer à tour de bras. À l'instant même, on entendit cette phrase sortir de toutes les bouches, avec un ensemble qui eût fait honneur aux comparses d'un théâtre du boulevard. « Ah ! Voilà monsieur le baron réveillé !» Et le tumulte s'apaisa comme par enchantement, ce qui donna au chevalier une haute idée de la fermeté avec laquelle son frère aîné gouvernait son intérieur. « Allons, madame Willem, dit le valet de chambre en arrachant son bonnet de coton et en découvrant son crâne nu et poli comme l'ivoire. « Allons, venez raconter à monsieur le baron ce qui s'est passé et lui expliquer comment des étrangers peuvent se trouver dans l'hôtel à 7 heures de la nuit. « Je n'oserai jamais, répondit la pauvre concierge. « Eh bien, j'irai, moi, dit le chevalier. « Qui êtes-vous ? Demanda le valet de chambre.
« Qui je suis ? Je suis le chevalier de la graverie, et je viens voir mon frère. »«
Ah, monsieur le chevalier, s'écria le valet de chambre, 1000 pardons de vous avoir parlé dans une tenue si peu convenable. Souffrez que je passe quelques vêtements, et j'aurai l'honneur de vous introduire auprès de votre frère. »
Quelques instants après, le vieux domestique apparaissait à la porte du vestibule où, après force salutations des plus respectueuses, il introduisit le chevalier. Il lui fit d'abord monter un large escalier de pierre de taille à la rampe de fer ouvragée, lui fit traverser plusieurs pièces, meublées de ces meubles jadis dorés, mais aujourd'hui peints en blanc par économie, frappa discrètement à une dernière porte, l'ouvrit et annonça majestueusement, comme il eut pu le faire en introduisant un ambassadeur étranger chez un ministre, « Monsieur le chevalier de la Graverie. » Le baron de la Graverie reposait dans un lit d'assez mince apparence et complètement veuf de rideaux. Comme tous les gentilshommes qui avaient passé par les rudes épreuves de l'émigration, le baron avait pris l'habitude de mépriser les superfluités de la vie, c'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui le confortable. Une commode, un secrétaire en acajou, une table de nuit qui s'ouvrait par une coulisse, tels étaient, avec le lit, les seuls meubles de la chambre. Sur la cheminée se dressait un cartel en cuivre, flanqué de deux chandeliers argentés et de deux cornets de porcelaine française. Autour de la glace étaient pendus différents médaillons représentant le roi Louis XVIII, Charles X et Monseigneur le Dauphin. Là se bornaient tous les ornements de cette pièce froide et nue, qui ne répondait nullement à la position réelle de son propriétaire et au luxe de domestique qui l'entourait. Au moment où le valet de chambre annonça le chevalier, le baron se dressa sur son coude, souleva de la main gauche un madras qui lui tombait sur les yeux, et, sans faire d'autres démonstrations amicales, « Et d'où diable sortez-vous, chevalier ? » s'écria-t-il. Puis, après une pause et comme obéissant à un sentiment de convenance, « Jasmin, fit-il, avancez un tabouret à mon frère. » Le pauvre chevalier fut glacé par cet accueil. Il y avait une quinzaine d'années qu'il n'avait revu son frère. Et quels qu'eussent été les procédés de son aîné envers lui, ce n'était pas sans une profonde émotion qu'il se trouvait en présence de cet homme qui avait puisé la vie au même flanc que lui. Et tout son sang reflua vers son cœur lorsqu'il put se rendre compte du peu d'importance que le baron de la Graverie attachait à la vie ou à la mort de son cadet. Aussi, lui laissa-t-il faire tous les frais de la conversation. Le baron en profita. « Par la sangbleu, comme vous êtes changé, mon pauvre chevalier, » dit le baron en inspectant son frère de la tête aux pieds, avec cette curiosité froide, complètement dénuée d'intérêt. « Je ne vous ferai pas le même compliment, mon frère, » dit Dieudonné, « car je vous trouve le même air, la même mine, la même voix que le jour où je vous ai quitté. » En effet, le baron de la Graverie, toujours sec et osseux, ridé de bonheur, avait vu impunément, en revanche, les années s'accumuler sur sa tête. Vivant sans souci, comme les gens profondément égoïstes, il n'avait pas ajouté une ride à ses rides précoces, pas un cheveu blanc à ses cheveux gris avant l'âge. « Et qui vous amène, monsieur mon frère ?» reprit le baron, « car, je présume, qu'il n'a pas fallu moins qu'un motif bien grave pour que vous vous décidiez à forcer ma porte à une heure aussi indue. D'où venez-vous ? » ?»« Mon notaire auquel je m'informais quelquefois de l'état de vos affaires et en même temps de celui de votre santé m'a dit que vous viviez, je crois, à Chartres, en Beauce, ou à Meaux, en Brie, je ne sais plus. Non, je crois que c'est à Chartres, n'est-ce pas? Effectivement, mon frère, c'est à Chartres. Eh bien, que fait-on là? Les gens qui pensent bien sont-ils nombreux? Philippe d'Orléans y compte-t-il beaucoup d'amis? À Paris,
Mon pauvre Dieudonné, la société se gangrène. La Gazette de France balabreloque. Chateaubriand et Fitz-James se font libéraux, et nombre de gens bien nés se rallient. Pouah ! C'est un temps bien déplorable que celui dans lequel nous vivons. Croiriez-vous que, pas plus tard qu'hier, la Quotidienne nous citait des noms de grands seigneurs, mais de vrais grands seigneurs, des gens dont les pères et les grands-pères montaient dans les carrosses du roi, qui ne rougissent pas de se faire industriels, des ducs, des marquis, qui deviennent marchands de fer et de charbon, que sais-je, moi ?
Mon frère, dit le chevalier, si cela vous était agréable, nous parlerions tout à l'heure de la chose publique, mais nous nous en tiendrions pour le moment aux intérêts privés qui m'amènent.
Soit, soit, dit le baron légèrement piqué, parlons de ce qu'il vous plaira.
Mais qu'est-ce donc qui grouille à vos côtés dans l'ombre ?
C'est mon chien, mon frère, n'y faites aucune attention.
Et depuis quand, mon frère, fait-on des visites à un frère aîné avec une semblable escorte ?
Un chien, cela se met au chenil, et quand on veut s'en servir ou le montrer à des connaisseurs s'il est de race, on le fait amener par son piqueur. Il va souiller mon tapis.
Le tapis du baron de la Graverie, notez bien cela, montrait la corde sur toutes ses faces et semblait avoir été jusqu'alors fort indifférent aux tâches de toute espèce.
Ne craignez rien, mon frère, répondit humblement le chevalier, qui comprenait toute l'importance qu'il y avait pour lui à ne pas indisposer son frère aîné. Ne faites pas attention à Black. Il est très propre, et si je l'ai amené avec moi, c'est qu'il me quitte rarement. Ce chien, c'est mon ami.
Singulier goût que vous avez de placer vos amitiés dans cette espèce.
Le chevalier avait grande envie de répondre qu'à la façon dont la fraternité était pratiquée chez les hommes, on ne perdait rien à chercher un bon sentiment chez les bêtes. Mais il résista à la tentation et se tint coi. Malheureusement, tout n'était pas fini entre Black et le baron de la Graverie.
Mais, chevalier, dit ce dernier, regardez donc ce que votre diable de chien tient entre ses pattes.
Le chevalier se retourna si brusquement du côté de Black que celui-ci crut que son maître lui adressait une invitation d'aller à lui, et, ramassant le coq que tout le monde avait oublié au coup de sonnette furibond du baron, il entra dans le cercle de lumière, tracé autour du lit, tenant à la gueule le malheureux volatile qu'il avait étranglé dans la cour. C'était l'état du pauvre Black d'étranglé et de rapporté. Étant dans l'exercice de ses fonctions, il croyait bien faire. À la vue de l'oiseau mort, le baron se dressa convulsivement sur son séant.
« Par la mort du diable ! S'écria-t-il. « Votre sot animal a fait là un beau chef-d'œuvre, un coq de Cochinchine que j'avais fait venir de Londres et qui m'avait bel et bien coûté 12 pistoles.
Vous aviez bien besoin, monsieur, de venir ici et d'y venir en pareille compagnie. Je ne sais à quoi tient que je sonne mes gens et que je leur ordonne à l'instant de pendre cette maudite bête.
Pendre du Ménil ? S'écria le chevalier, mis tout hors de lui par cette menace.
Songez-y bien, mon frère, avant de donner un pareil ordre. Je vous ai dit que ce chien était mon ami, et je le défendrai jusqu'à la mort.
Le pauvre chevalier s'était levé d'un bond en entendant la menace de son frère, et tout en prononçant de ce côté la menace par laquelle il y répondait, il brandissait son tabouret comme s'il se fût déjà trouvé en présence de l'ennemi.
Son attitude belliqueuse étonna singulièrement le baron, qu'il avait toujours connu fort poule mouillée, comme il disait.
« Oh là ! Mais quelle mouche vous pique donc, mon frère ! » s'écria ce dernier.
« Je ne vous connaissais pas ces transports héroïques. Savez-vous que vous êtes un hôte aussi dangereux que votre chien ?
Voyons, continua-t-il, en jetant un coup d'œil sur le malheureux coq que Black avait déposé à terre comme pour être prêt à soutenir son maître si besoin était.
Voyons, dites-moi vite de quoi il s'agit et finissons-en.
Le chevalier déposa son tabouret, fit signe à Black de se tenir tranquille, puis, après s'être recueilli un instant,
« Mon frère, dit-il, je désirerais avoir des nouvelles de Madame de la Graverie. »
Le tonnerre tombant dans la ruelle de Monsieur le Baron ne l'eût pas plus étonné que cette demande inattendue sortant de la bouche de son frère.
« Des nouvelles de Madame de la Graverie ? » s'écria-t-il.
« Mais il me semble, mon cher Dieudonné, que si vous avez attendu jusqu'à ce jour pour vous informer d'elle, c'est en vérité vous y prendre un peu tard. »
« Oui, mon frère, répondit humblement le chevalier, oui, j'avoue qu'il eût été plus convenable à moi de chercher à savoir dès mon arrivée en France ce que Mathilde était devenue. Mais que voulez-vous ? D'autres soins ?
Les soins de votre personne, sans doute, car d'après ce qui m'a été raconté, si j'en juge par votre mine fleurie et la graisse qui vous boursoufle de tous côtés et fait craquer vos vêtements, il est facile de voir que si vous êtes resté indifférent au sort de votre frère et de votre femme, vous n'avez pas négligé les soins de votre estomac.
Enfin, mon frère, toute récrimination à part, aujourd'hui, je désire savoir ce qui est arrivé de Mathilde après mon départ pour l'Amérique. Mon Dieu, que vous dirais-je ? Je ne la revis qu'une fois, lorsqu'il s'agit de régler les affaires dont vous m'aviez laissé la direction. Et je dois avouer que je la trouvais beaucoup plus accommodante que je ne m'y attendais. Elle ne manquait point de bon sens, cette créature. Elle comprit tout de suite la position exceptionnelle que lui faisait sa faute et se prêta de bonne grâce à ce que ma situation de chef de ma famille voulait que j'exigeasse d'elle. Mais enfin, quelles furent ces conditions que vous vous crûtes contraint de lui imposer ? S'écria le chevalier, qui voyait avec satisfaction son frère aller au-devant de l'interrogatoire qu'il comptait lui faire subir. Par malheur, le baron était meilleur diplomate que le chevalier. Il s'aperçut, à la mine embarrassée de son cadet, que sa question cachait une arrière-pensée, et à tout événement, il résolut de ne rien révéler de ce qui s'était passé entre sa belle-sœur et lui.
« Mon Dieu, dit-il d'un air naïf, il ne m'en souvient guère à cette heure. C'était, autant que je puisse me le rappeler, la promesse de ne plus porter votre nom et enfin l'acquiescement de votre femme à l'acte qui me substituait à votre fortune au cas où vous viendriez à décéder sans enfant. »
Mais, demanda le chevalier, comment Mathilde, qui était enceinte, put-elle se décider à signer cet acte qui livrait son enfant à la misère ?
La facilité même avec laquelle elle y donna son consentement vous prouverait, si vous en doutiez encore, combien les accusations portées contre elle étaient justes et fondées, puisqu'elle n'osait défendre ce qu'elle devait regarder comme le bien de son enfant.
« Et cet enfant, qu'est-il devenu ? » demanda le chevalier, abordant résolument la question.
« Cet enfant, sais-je seulement s'il y a eu un enfant, moi ? « Croyez-vous que j'avais du temps à perdre pour suivre dans ses campagnes amoureuses une drôlesse de ce genre ? Elle accoucha, je ne sais où. 2 ans après, elle mourut. J'ai là, dans mon bureau, son acte de décès. Peut-être sa grossesse s'est-elle bornée à une fausse couche, car il me semble, hors de doute, que si ce fruit de l'adultère eût vécu, on n'eût pas manqué de s'adresser à ma charité bien connue, pour venir en aide à ce petit malheureux ou à cette petite malheureuse.
Eh bien, mon frère, vous vous trompez, dit le chevalier piqué du sang-façon avec lequel son frère traitait la femme qu'il avait tant aimée. Il y a eu
une belle et bonne couche. L'enfant existe. C'est une grande et belle fille, qui est, je vous jure, le vivant portrait de sa mère. » Comprenant instinctivement qu'il portait à son frère le coup le plus douloureux qu'il put lui porter, le chevalier donnait comme assuré la chose dont il doutait encore. Malgré sa finesse et son assurance, le baron ne put s'empêcher de pâlir. « Quelque jeune coquine qui cherche à abuser de votre crédulité, mon frère, car ce que vous me dites là n'est pas possible. » Le chevalier raconta alors tout au long son histoire avec Thérèse. C'était une faute. Le baron le laissa aller jusqu'au bout. Puis, quand il eut fini, il leva les épaules. « Je vois, dit-il, que les années, si elles ont modifié votre intérieur et ballonné votre extérieur, n'ont rien changé à votre cervelle, mon pauvre Dieudonné. Vous êtes fou. Mathilde n'a point laissé d'enfant, je vous en donne l'assurance. » Quel que fût le doute du chevalier lui-même à ce sujet, il ne voulut pas se démentir. « Pardon, mon frère, dit-il, mais malgré tout le respect que je vous dois comme mon aîné, vous me permettrez de croire que votre affirmation ne prévaut pas contre mes... » Il allait dire contre mes certitudes, mais son honnête nature se refusa à ce mensonge. Il se contenta donc de dire, après avoir hésité une seconde, « contre mes présomptions. Je pense, moi, au contraire, que Mathilde a laissé un enfant, et j'ai la presque certitude que cet enfant, c'est la fille dont je viens de vous parler tout à l'heure. » « Vous n'avez pas, monsieur, je le présume, du moins, la prétention d'introduire cette intruse dans notre famille. » « J'ai la prétention, monsieur, dit le chevalier, que l'égoïsme de son frère révoltait, de rendre mon nom à mon enfant, aussitôt qu'il me sera possible de prouver au monde, comme il m'est déjà prouvé à moi-même, que Thérèse est ma fille. » « Votre fille, vous voulez rire sans doute, la fille du lieutenant Pontfarcy. » « Ma fille ou la fille de ma femme, comme vous l'entendrez, mon frère. Tenez, moi, je n'y mets pas le moindre amour-propre, ni le moindre respect humain. Qu'elle m'appartienne ou qu'elle ne m'appartienne pas, peu m'importe. N'est-ce pas, Black? Pour le monde, pour le droit, elle sera ma fille. Pater est quem nuptiae demonstrant. Je n'ai retenu que cela de mon latin, mais je le sais bien. Pour le cœur, elle me reviendra encore. J'ai assez aimé Mathilde. Elle m'a rendu assez heureux pour que je paye, pour que j'achète même bien cher le portrait vivant qu'elle aura laissé après elle. Voyons, mon frère, voulez-vous, oui ou non, me dire ce que vous savez là-dessus? Encore une fois, monsieur, dit le baron, je ne sais rien, absolument rien. Mais je saurai quelque chose que je ne parlerai pas davantage. C'est à moi, comme l'aîné, comme le chef de la famille, qu'il appartient de sauvegarder l'honneur du nom que je porte, et je ne veux pas qu'il soit compromis par vos folies. » Le nom n'est point tout ici-bas, mon frère, et souvent nous n'obéissons aux préjugés et aux convenances de la société qu'aux dépens des préceptes de l'Évangile et des commandements du Sauveur des hommes. Ainsi, s'écria le baron en se dressant une seconde fois sur son séant, en croisant les bras et en hochant la tête à chaque syllabe qu'il prononçait, ainsi, vous n'attendez qu'une preuve de la naissance de cette fille pour oublier que la mère a déshonoré votre nom et brisé votre vie, qu'elle vous a torturé, banni de votre pays. Eh bien, tenez, je vais vous donner encore une nouvelle preuve de l'indignité de cette femme. Vous avez cru jusqu'ici que M. de Pontfarcy avait été son seul amant? Point, elle en avait deux. Le second, devinez qui c'était.
ce capitaine du Ménil, cet Oreste dont vous étiez le Pylade. »
Je le savais, dit simplement le chevalier. Le baron recula d'épouvante, étouffant dans ce mouvement son oreiller contre le dossier de son lit.
« Vous le saviez ? » s'écria-t-il.
Le chevalier fit de la tête un signe affirmatif.
« Eh bien, cherchez, démêlez votre paternité au milieu de ce conflit d'adultère, si vous le pouvez. Pardonnez, si vous l'osez. »
« Je pardonnerai, parce que c'est plus que mon droit, mon frère, parce que c'est mon devoir. »
« À votre aise, moi je vous dirai ceci, monsieur. Il faut être sans pitié pour ceux qui commettent les fautes, qui, en démoralisant la société, nous ont conduits dans l'abîme où nous sommes. »
« Vous oubliez, mon frère, vous qui, cependant, avez la prétention d'être un homme religieux, vous oubliez que le Christ a dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Or, de qui était-il question, je vous le demande, si ce n'est d'une femme adultère, d'une Mathilde juive?
Ah, vous allez prendre l'évangile à la lettre, vous? S'écria le baron.
Au surplus, mon frère, reprit doucement le chevalier, pour ne pas mettre l'évangile dans tout cela, je trouve tout simplement que mieux vaudrait que Mademoiselle Thérèse, en supposant qu'elle ne fût que Mademoiselle Thérèse, devint Mademoiselle de la Graverie, que de penser que Mademoiselle de la Graverie pût rester Mademoiselle Thérèse.
Faites-en une religieuse, monsieur, payez sa dot sur votre revenu, puisque vous vous intéressez tant à une fille de la borne.
Il importe au bonheur de Thérèse qu'elle ait un nom, et c'est un nom que je cherche pour elle.
Mais, mort diable, songez-y, monsieur, le jour où elle aura votre nom, elle aura aussi votre fortune.
Je le sais.
Et vous oseriez dépouiller votre famille, frustrer mes fils qui sont vos héritiers légitimes, pour jeter votre fortune à un enfant dont vous n'êtes pas, dont vous ne pouvez pas être le père.
Qui le prouve?
Cette lettre même que je voulais vous remettre, le jour où je me décidais à vous faire connaître l'inconduite de votre femme. Lettre que Duménil osa déchirer malgré mes prières.
Cette lettre, je ne l'ai point lue, vous devez vous en souvenir, mon frère.
Oui, mais je l'ai lue, moi, et je puis vous affirmer que dans cette lettre, Mathilde félicitait monsieur de Pontfarcy d'une paternité dont elle lui attribuait tout l'honneur.
En feriez-vous vraiment le serment sur votre foi de gentilhomme? Demanda le chevalier, qui, depuis quelques instants, paraissait rêveur.
Sur ma foi de gentilhomme, je le jure, dit le baron.
Eh bien, grand merci, mon frère, dit en respirant le chevalier.
Et pourquoi cela, grand merci?
Parce que vous mettez ma conscience à l'aise, car, puisqu'il m'est impossible de reconnaître la pauvre Thérèse pour ma fille, je vais me décider à une chose à laquelle j'avais songé déjà, c'est à en faire ma femme. Et par ma foi de gentilhomme aussi, mon frère, dans quelques mois d'ici, je vous aurai donné, je vous le jure à mon tour, un bon gros neveu, ou une gentille petite nièce. »
Le baron fit un bond furieux dans son lit. « Sortez d'ici, monsieur, dit-il, sortez à l'instant même, et ne vous avisez jamais d'y remettre les pieds. Et si vous tenez à exécuter l'infâme projet dont vous venez d'avoir l'audace de me parler, je vous donne ma parole d'honneur que j'use de tout mon crédit pour vous faire interdire. »
Le chevalier, qui s'émancipait de plus en plus, ne prêta qu'une médiocre attention aux menaces de son frère. Il prit son chapeau, siffla Black aussi familièrement qu'il eût pu le faire dans une écurie, et ferma la porte en laissant le baron
en tête-à-tête avec son coq cochin chinois étranglé, et dans une exaspération difficile à décrire.